Comment tirer profit du SEO et du référencement web? Pour en parler, le président de ProStar SEO, Éric Saint-Cyr, est avec nous. Comment ça va, Éric?
Ça va très bien, Pierre. Et toi?
Content de. Oui, bien, écoute, ça roule, tout va bien. Content de t'avoir avec nous parce que là, tu vas nous parler de Google Ads.
Oui, oui, je pensais aujourd'hui parler de deux points en particulier, de Google Ads et aussi de quelque chose qui est tombé sur la tête de plusieurs personnes, qui est le Google Helpful Content Update, où le 5 mars dernier, Google nous a annoncé une mise à jour, une mise à niveau complète de son algorithme qui a nui à énormément de jeunes. On va en parler en détail puis expliquer un peu comment s'en sortir pour les gens qui ont été frappés. Bon, on va commencer avec les Google Ads, si tu permets. Parce que je vois énormément de gens qui viennent nous voir, qui font du Google Ads, puis je me rends compte qu'ils ne calculent pas ce qu'on appelle les conversions. Donc, si vous faites du Google Ads par vous-même, ou si vous avez une agence qui fait du Google Ads, si vous êtes en, vous devez être en mesure de calculer votre retour sur l'investissement. Votre retour sur l'investissement, c'est si vous dépensez 2 000 $ à Google, en Google Ads, mais ça vous rapporte combien d'argent? Puis est-ce que ça vaut la peine? Devriez-vous même en mettre plus pour en mettre moins? Ouais. Puis la seule façon d'être capable de mesurer ça, c'est d'avoir ce qu'on appelle des tags de conversion sur son site. C'est-à-dire que ce sont des petits bouts de code que Google nous donne, qu'on insère sur son site lorsque l'internaute, après avoir été envoyé par une annonce Google, fait une action. Cette action-là, dans 99% du temps, c'est soit qu'il appelle. Donc, si tu es un dentiste, il va t'appeler à ton cabinet. Puis Google est capable de mesurer, suite à mon annonce, le client appelle. Donc, tu reçois un appel. On peut même mesurer, bien, l'appel, il faut qu'il dure, disons, 5 secondes ou 10 secondes pour qu'on le compte. Et aussi, on va souvent mesurer les questionnaires qui sont envoyés. Donc, si tu as une compagnie de construction, quelqu'un te demande un devis. Donc, quand tu as une conversion, tu reçois un vrai lead. Il y a énormément d'agences web qui ne se donnent pas la peine de faire ça. Ça veut dire que lorsque tu les rencontres, toi et moi, pour avoir tes campagnes, ils vont te dire « Ah, j'ai envoyé 264 personnes sur ton site, tu as reçu 264 clics. » Moi, le nombre de clics que je reçois sur mon site, si je ne reçois pas de lead, si je ne reçois pas de clients, ça n'a aucune valeur pour moi. Donc, si je paye pour un clic de Google, je veux que la personne vienne sur mon site web. Mais quand il vient sur mon site web, il faut qu'il fasse une action. Faut qu'il soit qu'il achète mon produit, soit qu'il m'appelle, soit qu'il demande une rencontre, mais il doit se produire une action qui va mener à une vente ou à une rencontre ou à quelque chose qui va me rapporter. Sinon, pourquoi dépenser pour faire du Google Ads? Et ces conversions-là, ces leads-là, ça se mesure. Et c'est primordial, à mon avis, d'avoir ça sur un site. Là. Si vous ne l'avez pas, virez-vous de bord, demandez, exigez-le. Il faut être en mesure de le faire.
Pourquoi? Oui, écoute. Première chose, là, c'est important d'avoir un retour. Là. Tu mets 2 000 $ par mois. Si tu ne sais pas le nombre de clics ou de leads, c'est la première affaire qu'on mesure là, habituellement.
Ben, tu serais surpris. Les gens ne mesurent pas. Ils mesurent les gens qui viennent sur leur site web. Mais si les gens n'achètent pas sur ton site web, si tu n'as pas de call to action, si tu n'as pas de « appelez-nous », etc., si tu n'as pas un numéro de téléphone cliquable, on voit ça. Quelqu'un qui paye du Google Ads depuis 2 ans, on tombe sur son site, le numéro de téléphone n'est même pas cliquable sur un cellulaire. Ça veut dire que la personne est obligée de prendre le numéro en note puis de le retaper, ça ne tient pas debout. Donc, très, très important de mesurer les conversions parce qu'il y a une utilité à ça. Puis je vous le montre d'une façon très simple. Je vais prendre un exemple. J'ai un dentiste, tiens, où pour avoir un lead, on commence une campagne Google Ads, si elle est tout nouvelle, au début, le premier mois, le deuxième mois, c'est plus difficile. L'intelligence artificielle de Google et la personne qui gère le compte doit faire des actions à répétition, c'est-à-dire l'intelligence artificielle de Google doit comprendre quelle sorte de client on vise et à qui présenter notre annonce. Et nous, on doit retirer ce qu'on appelle les mots-clés négatifs, c'est-à-dire que si vous faites des annonces sur implant dentaire, bien, vous ne voulez pas sortir sur douleur après implant dentaire parce que la personne a déjà eu son implant dentaire. Donc, on veut être en amont de la décision d'achat ou d'opération dans ce cas-ci et non pas après la décision. Donc, les annonces de plus en plus deviennent précises et ça va faire que le prix par conversion ou le prix par clic aussi devrait diminuer dans le temps. Donc, lorsque ça fait 1 mois, disons 2 mois que la campagne, elle roule puis qu'on mesure les conversions, on va arriver à un point, je vais donner l'exemple d'un dentiste à Québec, qui, pour avoir une conversion, ça lui coûte environ entre 6,50 $ et 7 $. Donc, disons 7 $ pour avoir une personne qui l'appelle. Ensuite, je m'assois avec le dentiste et je lui dis, bon, pour avoir une personne qui t'appelle, moi, je sais que ça te coûte 7 $. Toi, ça te prend combien de calls pour avoir un nouveau client? En disant en général, je dirais que trois appels, je devrais avoir un nouveau client qui va rentrer, puis ça va être une urgence ou il va devenir client chez nous. Puis là, je leur pose la question, mais c'est quoi la valeur à vie d'un client? Mais la valeur à vie d'un client, ben, ça va varier entre 5 et 10 000 $. Le client qui vient chez le dentiste, et puis pas tout ça, il reste chez le dentiste, il va être là pendant plusieurs années. C'est OK, on va mettre ça à 5 000 $. Donc, ça, c'est un cas extrême, c'est un super beau cas. Si tu apprends 7 $ pour avoir un lead, tu me dis en 3 leads, et puis pendant tout le temps, tu refermes un client, mais on va dire que c'est en 5 leads. Je vais te donner un peu de leeway, là, parce que des fois, il y a du monde qui appelle, puis c'est déjà tes clients à toi, puis ils vont cliquer sur l'annonce, ces choses-là. Donc, ça te prend 35 $ pour faire l'acquisition d'un client. Et le rendement ou la valeur à vie de ce client-là, pour toi, c'est 5 000 $. Donc, si tu payes 1 000 piastres d'annonce en ce moment, la deuxième question, est-ce que tu es capable de prendre plus de clients? Oui, on a un petit lac dans cet ainsi. Mais à ce moment-là, il n'y a aucune question. Monte de 500, monte de 1 000 $ parce
Oui,
que
oui.
le rendement sur l'investissement est tellement faramineux, là, 35 piastres, j'en fais 5 000, c'est fantastique, qu'il n'y a pas de question à se poser. Mais il y a d'autres cas où les montants sont beaucoup plus élevés. J'ai quelqu'un qui va faire de la vente de propriété pour des gens qui ont des problèmes financiers, qui veulent vendre la maison rapidement. Là. Vendre la maison dans 2 semaines, puis avoir les liquidités pour te retrouver en problème. Eh bien, pour avoir un lead, ben ça, c'est 70 $. Mais ça prend 10 leads pour être en mesure souvent d'avoir un client. Donc, tu parles d'un investissement de 700 $ pour ton coût d'acquisition de client. Mais encore là, c'est important à savoir parce que lui, s'il fait 50 000 $ lorsqu'il fait encore là 700 $ 50 000 $ le rendement est très, très, très bon. Puis il y a d'autres cas où on se rend compte que c'est du quoi, c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent que tu vends, surtout les gens qui n'ont pas des services qui sont très, très recherchés. Et que si le rendement est pas élevé, tu sais, quand tu vends une maison, les rendements sont très bons. Mais quelqu'un est venu me voir récemment, il faisait des remplacements pour les bâtons sudorifiques déjà existants. Donc, pour 4 $, tu pouvais acheter un bâton sudorifique, puis c'était bon pour l'environnement parce que ton tissu de plastique, tu pouvais la garder, etc. Puis je lui ai dit très clairement, perds pas d'argent en Google Ads, perds pas non plus d'argent en SEO tant que tu n'en vendras pas plusieurs dizaines de milliers, parce que le retour sur ton investissement
C'est
vaudra pas
ça.
la peine. Tes marges sont trop basses pour que ça vaille la peine de dépenser pour aller chercher un à chaque fois. Donc, chaque client et chaque produit est différent. Mais si vous n'êtes pas en mesure de me dire c'est quoi votre coût d'acquisition de client avec le Google Ads, vous avez un problème. Parce que vous n'êtes pas en mesure de prévoir combien d'argent je vais mettre pour aller chercher tant de clients. Mais la beauté de ça, c'est que quand tu le sais, tu le maîtrises bien, mais c'est comme une presse à imprimer de l'argent. Tant que tu es capable de prendre des clients, tu mets un peu plus d'argent. Tu as plus d'argent qui rentre, tu as plus d'argent à mettre dans ton Google Ads, puis là, la roue, ça devient vertueux. Donc, dans le Google Ads, le point à retenir aujourd'hui, c'est assurez-vous que vos conversions sont mesurées, assurez-vous qu'elles sont bien mesurées. Donc, si l'agence vous dit ou si votre compte vous dit vous avez eu 28 calls ce mois-ci, ben allez voir votre personne qui prend les appels, puis assurez-vous que vous avez reçu un minimum de 28 calls. Puis souvent, les clients vont vous appeler d'une façon naturelle ou le référencement naturel va vous amener des cas aussi. Mais c'est primordial pour mesurer c'est quoi le rendement de ce qu'ils nous apportent.
Voilà.
Des questions là-dessus?
Ben, c'est assez clair. Il faut s'occuper de ses affaires, puis il faut savoir, c'est ça, là, son coût de revenu, puis son coût aussi par annonce, acquisition de clients, c'est important, là. Tu ne peux pas pomper du fric et du vitam aeternam en sachant pas que tu as un retour sur ton investissement à
Ah,
moyen, court, moyen, long terme.
puis si, même si vous faites des annonces, puis ça vous apporte des clients, vous le voyez, vous vendez des armoires de cuisine, puis les clients rentrent chez vous, puis ben, je vous ai vu sur Google, je suis venu vous voir, tant mieux. Mais encore là, tu pourrais avoir plus de clients, peut-être que ton coût d'acquisition est vraiment pas cher, tu devrais mettre plus d'argent. Il y a tellement de façons qu'on peut jouer avec ça, puis se permettre d'être plus efficace, puis d'exploiter le dollar au maximum. C'est gratuit de mettre ces tags-là sur un site web. Il n'y a pas de coût supplémentaire à aller chercher le coût de la
Ah, c'est
conversion.
du
Donc, c'est tellement
numérique,
des outils qu'il
hein?
faut savoir.
C'est ça, tout est mesurable là, sur le numérique, là, hein? Clairement. Mise à jour de Google, ouais.
La mise à jour de Google, c'est une grosse mise à jour. Elle est arrivée le 5 mars et c'est peut-être la plus importante des dernières années. Google l'a appelé Google's Helpful Content Update, que je traduis par mise à jour du contenu utile de Google. Ce que Google nous dit, c'est que c'est mis en place de façon à donner des résultats de recherche organique qui seront plus précis et ils appellent ça spam, là, moins vendeurs, mais plus qui vont permettre de prendre des meilleures décisions, d'avoir de meilleurs renseignements dans les recherches organiques. Ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est ça fait quoi Google dans la vie? C'est quoi les deux? Tu vas savoir ça, c'est quoi la source de revenus principale de Google?
Ben, il y a
c'est les annonces.
Oui, c'est ça, c'est la pub.
C'est la pub. Donc, si vous croyez que Google, le but ultime de Google, c'est vous servir le meilleur résultat de recherche possible qui va répondre exactement à la question ou à la recherche que vous avez fait, ben, je vais devoir vous réveiller un peu. Google, ce qu'il veut, c'est que vous cliquiez sur les annonces. Et il veut encore plus que les gens annoncent davantage, davantage, davantage. Donc, à ce moment-là, pour que les gens utilisent son produit, il se doit d'avoir un produit de qualité. Donc, ça se doit de demeurer un outil de recherche intéressant qui produit des résultats qui ont de l'allure. Mais en même temps, il y a un double mandat. Il ne faut pas que ce soit trop bon parce que je veux le plus possible que les gens se mettent à annoncer chez nous parce que c'est là que je fais mon revenu. Donc, Google, je ne vous dirais pas que Google nous ment, mais Google nous dit toujours des demi-vérités. C'est un peu comme si mon épouse me dit « t'as sorti avec les boys hier, puis combien t'as pris de verres? » Puis je dis « j'ai rien pris 3 verres, mais je ne vous dis pas la grosseur des verres que j'ai pris. » Ben, je n'ai pas menti, mais je ne vous ai pas nécessairement donné l'histoire au complet.
Exact.
Google joue beaucoup comme ça avec nous. C'est juste de se rappeler, il y a quelques années, Google, les annonces, il en mettait 2 en haut. Puis, un peu plus tard, mais il s'est mis à en mettre 3. Puis après ça, il s'est mis à en mettre 4. Donc, dans le premier écran, il y a quasiment le tiers de l'écran qui sont des annonces. Les probabilités qu'on clique sur une annonce, quand même qu'on ne veut pas cliquer sur une annonce, viennent d'augmenter à ce moment-là. Puis là, partager ça à des milliards de recherches à chaque mois, là, c'est, on va chercher 2-3% plus de clics, ça change beaucoup l'impact sur les revenus de Google. Ensuite, Google s'est mis à mettre des annonces dans le Google Maps. Donc, des fois, si on recherche restaurant de pizza, on se rend compte que le premier en haut, ça va être marqué sponsor. C'est pas la pizza qui est plus proche de chez nous, c'est celui qui paye pour être là. Après ça, Google s'est mis à nous mettre récemment ce qu'on appelle un scroll infini. Où c'est qu'on n'a pas 10 résultats de recherche, puis on change de page, on a 10 résultats de recherche, puis on recommence. Puis ça, ce que ça produit, c'est qu'il y a 4 annonces en haut, mais il y a aussi 3-4 annonces en bas. Mais ceux-là, ils se mélangent en descendant avec les résultats de la deuxième page. Donc, on ne sait plus où ce qu'on est. Donc, ça fait de plus en plus de gens qui cliquent. Ça, c'est pour avoir le plus de clics possible. Ce que Google essaie de faire aussi, c'est d'avoir de plus de gens possibles qui annoncent. Puis la façon la plus simple de faire annoncer les gens, c'est d'avoir le plus de sites possibles qui n'atteignent pas les résultats organiques qu'ils aimeraient avoir, donc qui n'ont pas le choix. Dans le dernier update de Google, ce que Google nous dit qu'il a fait, c'est qu'il a pénalisé les sites qui avait du contenu qui répondait très peu aux besoins des internautes. On s'est rendu compte que dans le domaine des voyages, où il y a des centaines de milliers, sinon des milliers de blogs de gens ordinaires qui écrivent sur les voyages, qui font un peu d'argent en faisant du Google, des annonces Google sur leur site, etc., il y a probablement 80-90% des gens-là qui se sont fait planter comme il faut par Google. Pourtant, les gens au début ont dit « Ah, Google vise le contenu qui est généré par le AI, par l'intelligence artificielle », mais ça ne semble pas être le cas. Nous, l'intelligence artificielle, on s'en sert beaucoup, on modifie toujours avec un humain derrière, mais ceci dit, sur les 100 sites que nous avons, on a seulement 2 sites qui ont été touchés. Et dans ces 2 sites-là, on peut clairement viser, c'est quoi? C'est 2 sites qui ne font que du AI. Donc, leurs pages sont écrites automatiquement par les robots. Et ça, si tu produis 9 millions de pages sur un site et que tu as seulement que 50 000 visiteurs par mois, eh bien, Google va dire, tu as beaucoup trop de sites qui prennent de la place dans mon index qui me coûte pas de sites, mais de pages. Je vais à ce moment-là réduire ton nombre de pages dans mon index.
On désindexe des pages, là, c'est ça, clairement.
Oui, énormément, énormément. Mais il y a énormément de gens avec des blogs écrits à la main qui se sont vus désindexer ou perdre beaucoup, beaucoup de positions. Ils étaient dans les 3-4 premiers. Et ça, ce qu'on se rend compte, et si vous êtes victime de ça, la façon que je vous conseillerais d'adresser cette situation, c'est si vous avez des blogs, mettons, puis on parle des 10 meilleures choses à faire à Paris, que la première, c'est la Tour Eiffel, le musée d'Orsay, le musée de Louvre, la cathédrale Notre-Dame de Paris, eh bien, votre contenu, il est pareil comme
20, 25 000 autres. Ouais, c'est ça.
Et on se rend compte que, dans le fond, Google, ce qu'il dit, c'est que les gros sites, ils ont déjà ce contenu-là. Puis les petits sites qui ont moins d'autorité, ben j'ai discount en ce moment, j'ai plus besoin de les tenir. Donc, les petits sites qui ont survécu, c'est ceux qui avaient une opinion claire. Faites ça à la place de ceci. Si la ligne d'attente est trop longue, allez à tel endroit pour acheter des billets, où il y avait des conseils qui étaient clairs, précis, ou des opinions ou des points de vue qui sortent de la monotonie de visiter la Tour Eiffel et de où acheter son ticket. Donc, si vous avez des sites, gênez-vous pas pour leur donner une saveur qui est très personnelle.
Local, oui, c'est ça.
Écrire à la première personne, puis de dire voici des petits trucs, ou bien au lieu d'aller là quand tout le monde va là, ben prenez donc ça à la place. Ça a de grosses chances de vous aider à replacer ou à regagner plusieurs positions. Mais ceci dit, ce qu'on s'est rendu compte avec l'update, c'est que les gros sites ont gagné encore plus de place. Et maintenant, depuis environ quelques 4-5 mois, puis ça s'est accentué avec le dernier update, Google permet aussi au même site à avoir 2 ou 3 positions dans les 10 premières positions. Donc ça veut dire que un gros site peut avoir pris la place de 10 petits, puis les 10 petits vont être pris pour virer de bord puis se mettre à faire du Google Ads. Donc pour Google, c'est des impacts qui sont très, très positifs, ces changements d'algorithme-là. J'admettrons jamais publiquement qu'il s'est fait dans le but de faire, d'atteindre ce point de vue-là, mais c'est une entreprise à but lucratif. Puis
ah oui.
Ce qu'ils font, c'est de façon à croître le bottom line.
Oui, puis ils doivent se repositionner parce qu'eux autres, ils ont les autorités réglementaires de l'Europe et de d'autres pays, d'autres continents dans le derrière. Donc, ils doivent recalibrer la machine pour faire générer encore plus de revenus, là.
Donc, on se retrouve avec des sites comme Reddit qui vont se ramasser avec 2-3 positions dans la première page. Et pour la personne qui parlait d'un sujet X puis qui avait un petit site, mais qui c'était vraiment son sujet principal, puis ça lui amenait énormément de visiteurs, ben il va se retrouver en deuxième, en troisième page. Puis ça, ben, c'est triste, mais ça ne semble pas être là vraiment pour changer.
À suivre. Qu'est-ce que tu vois là, actuellement dans le marché? La tendance, les entreprises, ça repart, l'économie, les taux d'intérêt vont baisser. Comment tu vois la PME, l'optimisme?
Nous, on fait affaire au Québec, au Canada, aux États-Unis, mais un peu en Europe. C'est encore difficile, je te dirais, au Québec en particulier. Mais aux États-Unis, c'est plus fort que jamais. Donc, à mon avis, les deux économies ne sont pas du tout à la même vitesse.
L'économie on le voit, hein?
L'économie américaine. Au Canada, il y a énormément d'engouement à chaque fois que le gouvernement présente un programme puis donne un peu de sous pour aider les gens. Ça n'existe pas aux États-Unis, ça. Les gens ne posent pas de questions du tout. C'est embarque puis s'éteint. C'est triste un peu parce que j'ai l'impression que l'entrepreneuriat ici il est vibrant, mais en même temps, C'est difficile de dire on va donner un coup, les capitaux sont difficiles d'élever, il semble avoir les. À mon avis, le ralentissement économique, mais je ne vois pas encore la fin en ce qui a trait en particulier aux petites et moyennes entreprises. Comme je te disais toujours, moyenne, grosse à grosse entreprise, il y a un engouement majeur pour tout ce qui est SEO parce qu'on cherche des nouvelles avenues pour croître la vente.
Voilà, les entrepreneurs. Oui, ben les entrepreneurs qui nous écoutent. Ils peuvent aller sur ton site, tu fais une analyse gratuite, puis après ça, tu peux leur donner des conseils.
Oui, oui, j'ai souvent des écouteurs de votre part, des écouteurs de ton podcast qui a des écouteurs.
Les auditeurs.
Les auditeurs de ton podcast qui communiquent avec moi. Vous pouvez faire un audit gratuit de votre site, c'est un outil technique, ça va vous montrer s'il y a des problèmes importants sur votre site et certains points améliorés. Si vous voulez aller plus en profondeur, vous pouvez réserver 1 heure avec moi, ça me fait plaisir de vous aider. Les gens parfois sont surpris. J'avais un client hier qui était dans le domaine du solaire, mais qui débutait, puis je lui ai dit justement, le ROI de fais ci, si ça, ça va fonctionner. Dans quelques mois, rappelle-moi si ça fonctionne bien. Mais le retour sur investissement de faire affaire avec nous, il n'est pas là encore. Fait que moi, je cherche vraiment des clients où on va aller chercher un impact là, où à l'intérieur de 3 mois, on va Si nos frais sont de 2 000 $ par mois, on va leur apporter du 8 à 10 000 $ de plus par mois. Et ça, on devient un investissement pour eux et non pas une dépense. Et c'est ça. Mais si votre site est un peu plus petit, vous avez besoin d'un petit coup de main, d'une demi-heure, une heure, je peux vous expliquer 3-4 choses, ça risque de vous aider. On ne demande rien en retour, c'est une façon d'aider les gens et de se faire connaître davantage.
Oui, puis des clients qui peuvent revenir éventuellement aussi, peuvent dire, ben écoute, là, peut-être pas là, mais je vais revenir dans 2 mois. Et effectivement, ils reviennent. Éric Saint-Cyr, merci beaucoup. Je pense que la prochaine fois qu'on se parle, on va jaser de l'intelligence artificielle, tout ce qui s'en vient là, avec le SEO.
Oui, je pense qu'avec l'intelligence artificielle qui commence à prendre énormément de place, Amazon vient de mettre 4 milliards dans un des compétiteurs d'OpenAI. Et que ça fait juste commencer.
Voilà. Merci beaucoup.